Bonjour à tout le monde. Y en a-t-il parmi vous qui n'ont pas entendu parler de la COP21? Dans vos sourires, j'ai l'impression que c'est à peu près tout le monde. COP21, vous savez pourquoi COP? Les Anglais. Why COP? COP. Ça veut dire? What does it mean? COP in English. Conference of the Parties. Ça veut dire conférence des parties en anglais. C'est pour ça qu'on dit COP21. Tout le monde se demande pourquoi COP en lien avec l'environnement. En fait, ça fait partie des grandes conférences de l'ONU. Et on dit c'est une conférence des parties. Je n'ai pas encore compris pourquoi. Mais Conference of the Parties. Voilà. Et comme et 21 parce qu'on est au 21e siècle. Qui connaît bien tout ce qui se passe à la COP21? Qui est particulièrement intéressé par cette question? Micheline, Étienne? Oui, toi aussi, Laura? Bon. Merci de me soutenir. Ah, et aussi Quentin. Alban. Ah mais si, mais il y en a de plus en plus. Bon, Michel, et puis Vanessa. Alors c'est bien. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème pour la journée d'aujourd'hui, où je voudrais traiter de l'écologie selon la Bible, en nous disant qu'on en parle tellement que ce serait intéressant qu'on connaisse ce que la Bible dit de l'écologie. Mon message sera en grande partie basé sur celui d'un grand théologien britannique, Christopher Wright, qui est un éthicien aussi, et qui traite cette question. Alors vous verrez, j'ai utilisé beaucoup de photos, de paysages, justement pour montrer que ce que Dieu a créé est très beau. Et dans ce sens-là, pour qu'on les voit mieux, est-ce qu'on pourrait éteindre? Micheline, tu pourrais éteindre? Est-ce que tu atteins le... Voilà, le premier. Merci beaucoup. Non, peut-être on va laisser ça. Voilà. Comme c'est un sujet, et non pas l'étude d'un texte, on va avoir affaire à beaucoup de versets de la Bible. Et donc j'ai préféré les afficher pour que vous les lisiez tout de suite, plutôt qu'avoir à chercher, attendre que tout le monde trouve dans sa Bible. Si vous voulez ensuite, si ça va un peu trop vite au niveau des versets, et si vous voulez avoir le texte du message, il n'y a aucun problème pour que ceux qui le demandent le reçoivent. Et nous voulons d'abord, parce que je crois que cela convient quand on prêche la parole de Dieu, lire un texte de la parole de Dieu. C'est donc le fondement de ce que je peux dire, et c'est le plus important, la lecture de la parole de Dieu. Et je vous propose là d'ouvrir vos Bibles au psaume 104 que nous allons lire avant toute chose. Il s'intitule dans ma version, la seconde 21, « Louange au Dieu de la création ». Bénis l'Éternel, mon âme, Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend le ciel comme une tente, il construit sa demeure au-dessus de l'eau, il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent, il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un vêtement. L'eau recouvrait les montagnes. Elle a fui à ta menace. Elle s'est sauvée au son du tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées à la place que tu leur avais fixée. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Il conduit les sources vers des torrents qui parcourent les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent, les ânes y étanchent leur soif, les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Ils sont bien nourris, les arbres de l'Éternel, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins. Les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer le temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu fais venir les ténèbres et c'est la nuit. Tous les animaux des forêts se mettent alors en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Oh, que tes œuvres sont nombreuses, Éternel! Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer, immense et vaste. Là vivent innombrables des animaux, petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan que tu as formé pour qu'il y joue. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Et tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu te caches et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent. Ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Que la gloire de l'Éternel dure éternellement. Que l'Éternel se réjouisse de toutes ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et qu'il n'y ait plus de méchants. Bénis l'Éternel, mon âme. Louez l'Éternel. Voilà ce magnifique psaume qui parle aussi bien de la grandeur de Dieu que des oiseaux qui sont dans leur nid sur une branche. Je voudrais faire ce message en deux parties, une aujourd'hui et une qui est vraisemblablement sera le premier dimanche de l'année, le 3 janvier, et ça nous permettra de voir les choses calmement, posément. En fait, dans ma première idée, je voulais tout faire aujourd'hui et je me suis rendu compte ce matin que ce serait vraiment trop. Alors comme ça, le premier dimanche de janvier, on parlera plutôt du péché qui a touché la création, de notre réalité que nous vivons particulièrement en ce moment, mais aussi de l'espérance. Parce que le chrétien est un écologiste qui a plein d'espérance. Et on parlera donc de notre situation actuelle et de l'espérance le premier dimanche de l'année. Je m'en réjouis déjà. Mais pour l'instant, nous allons parler de la création qui appartient à Dieu et aussi qui nous est confiée. C'est un point essentiel quant à la relation du chrétien avec la création. Première chose à ce sujet, la terre appartient à Dieu, ne l'oublions pas. Le psaume 104 est absolument explicite là-dessus, dont par exemple le verset 24, qui nous dit que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La création est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui l'a faite. Elle lui appartient. C'est lui l'auteur de tout ça. Grande différence, et j'y reviendrai aussi au cours de ce message, avec ce que les hommes pensent. Il y a effectivement des écologistes non chrétiens, mais qui excluent complètement d'appeler la nature la création. Nous voulons dire, parce que la Bible dit, que c'est Dieu qui a créé la terre et le ciel et tout ce qui s'y trouve. Dieu est le créateur, avec un grand C, le plus grand possible. Donc nous pouvons défendre la nature aussi bien que d'autres hommes non chrétiens, nous pouvons la défendre avec les mêmes mots, de la même façon, mais sur des bases complètement différentes. Et ça peut être d'ailleurs des beaux sujets de discussion pour présenter notre Dieu qui a tout fait. Mais regardez aussi, dans Deutéronome, Dieu dit, c'est au Seigneur, ton Dieu, qu'appartiennent le ciel et le ciel du ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Voilà une autre affirmation importante. Le psaume 24 aussi dit, c'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Je trouve qu'on s'habitue un peu à ces paroles. Quand on lit les psaumes, c'est à lui qu'appartiennent le ciel. On ne fait pas toujours attention au fait que Dieu est le propriétaire de la terre et des cieux. Et nous, petits humains qui marchons sur cette terre, nous ne sommes que les locataires qu'il a bien voulu garder sur cette terre. Nous ne sommes que des locataires ici. Rien n'est rien de rien. Même si parmi nous, il y a quelqu'un de très riche qui possède beaucoup de maisons, voire des bois magnifiques, en fait, il n'est que locataire de cette terre qui appartient à Dieu. Et en relation avec ce fait que la terre appartient à Dieu, il y a trois réalités qui me paraissent extrêmement importantes, justement, dans notre rapport à la création. La première réalité... La première, ça, il n'y en a que trois. Je voulais pas être trop long, donc j'en ai mis que trois. Il y en a une quatrième, mais voilà. Ou plus. La création est bonne, et même très bonne. Ça vous fait penser à quoi, ça? Est-ce que vous pensez à quel texte sur lequel je me réfère, puisque je dois dire tout en référence à la parole de Dieu? Voilà, le texte de la création, ce magnifique texte. Dans les versets 12, 18, 21, 25 de Genèse 1, il est dit « Dieu vit que cela était bon ». Et même à la fin, au verset 31, Dieu dit que cela était très bon. Quand je lis ce texte, je m'imagine toujours un chef cuisinier qui est fier d'apporter ses plats devant ceux qui ont voulu se mettre à sa table et qui arrive et qui sait que c'est très bon et que ses invités vont se régaler. Alors parfois, il y a certains cuisiniers, voire certaines cuisinières, qui apportent leur plat en disant « Oh, je ne sais pas si ça va être vraiment bon ». Ça vous arrive des fois, non? Moi, j'en connais une qui, c'est souvent ça. « Oh, c'est la première fois que je fais cette recette, je ne suis pas sûr que ce soit très bon. Voilà. » Mesdames, est-ce que vous vous reconnaissez? Et messieurs, peut-être? Les messieurs sont en général plus sûrs d'eux. Hein, pour les dames, c'est un peu trop cuit ou pas assez cuit. Voilà. Eh bien, quand Dieu a fait la création, il s'est dit plusieurs fois, c'est très bon. Il a regardé, il a été content de lui, c'est très bon la création. Donc, la création, nous devons la regarder comme quelque chose de très bon, nous régaler de ça. Et c'est très différent, justement, on parlait tout à l'heure des autres religions, le récit de la création dans les autres religions, et Olivier en parle aussi dans ses interventions, le récit de la création dans les autres religions, c'est souvent l'issue, le résultat d'un conflit entre des dieux, et on ne sait pas pourquoi ça a créé, il y a eu la création sur laquelle on vit. Mais l'approche chrétienne de la création et la vérité donnée par Dieu, c'est qu'elle est très bonne. C'est qu'il n'y a rien de négatif là-dedans. Dieu a fait des choses bonnes. La deuxième réalité, c'est que la création porte témoignage à son Créateur. Vous savez, il y a un chant qui commence en disant « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Et c'est tiré de ce psaume 19, verset 2, « Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains ». La création elle-même est utilisée par Dieu, et nous y reviendrons dans la deuxième partie, pour louer la gloire de Dieu. On voit dans d'autres versets que les arbres des champs battent des mains. C'est une image. Je ne sais pas comment ça se fait, mais voilà, les arbres des champs battent des mains pour louer Dieu. Il y a vraiment un intérêt de la création, on peut dire, pour la gloire de Dieu et pour démontrer la gloire de Dieu. Vous avez lu tout ce qu'on a lu dans le psaume 104, « Tout est pour la gloire de Dieu, que la gloire de l'Éternel dure éternellement. » Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. La création raconte la gloire de Dieu. Excusez-moi. Paul aussi, quand il était à Lystre, donc l'apôtre Paul, et qu'il évangélisait, donc à Lystre, c'est en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, un peu au sud, milieu sud de la Turquie, il a fait un miracle, et alors les gens se sont tous réunis autour de lui, ils étaient prêts à offrir des sacrifices aux dieux grecs, c'était une culture grecque, et c'est avec peine que Paul les a retenus, et il leur a dit, mais il leur a parlé de ce Dieu, qu'ils ne connaissaient pas du tout Jésus, ces gens-là, donc il leur a parlé du Dieu créateur. Et il a dit, pourtant, Dieu n'a jamais cessé de donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est de lui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. C'est beau ça. En présentant Dieu, le Dieu créateur, il dit, c'est ce Dieu-là qui comble vos cœurs de joie. Pour des gens qui n'avaient pas du tout entendu de Jésus, Paul s'est décidé à parler du Dieu créateur pour que ça touche leur cœur. Et puis également, ce verset des Romains, au chapitre 1, « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, donc tout ce qui ne peut pas se voir de Dieu, bien, c'est rendu visible dans la création. Sa puissance, ce qui est invisible de la part de Dieu, comment on peut toucher la puissance éternelle de Dieu? Comment on peut toucher la divinité de Dieu? Quand on ne connaît pas la Bible et tout ça, on ne sait pas. Mais elles sont visibles dans ce qu'il a fait. Ça se voit, sa puissance éternelle et sa divinité se voit dans ses œuvres quand on y réfléchit. Donc vous voyez que la création donne gloire à Dieu et qu'on peut même découvrir la dimension de Dieu en regardant ce qu'il a fait. C'est peut-être une des plus grandes évangélistes, la création, depuis qu'elle est créée pour révéler la dimension de Dieu. Et troisième réalité, la création n'est pas divine, mais elle est sacrée. La création n'est pas divine, ce n'est pas une déesse. Et dans toute l'ensemble des dieux grecs, latins, mais aussi animistes, et Olivier a fait une conférence là-dessus, il y a tout un tas de dieux, donc ce qu'on appelle le polythéisme. Nous croyons, enfin nous, notre religion est monothéiste, nous n'avons qu'un seul dieu créateur et pour le tout. Et pour les polythéistes, il y a plusieurs forces qui sont reliées aux dieux qui leur correspondent, la lune, le soleil, l'eau, la mer, etc., les étoiles. Les polythéistes croyaient que chaque étoile était un dieu. Mais nous croyons différemment. Parce que la Bible nous dit autre chose. Au psaume 33, il est dit, l'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Et il tient l'océan comme un réservoir, que l'univers entier révère l'Éternel. Et non pas révère la lune, le soleil, les étangs, etc. Que tout l'univers révère l'Éternel, le Dieu créateur. Qu'il tremble devant lui les habitants du monde. Donc Israël ne devait pas considérer la nature comme divine, alors que tout autour de lui, les gens qui vivaient autour d'eux, et c'est pour ça que c'était si difficile pour eux, ils révéraient les forces de la nature. Et c'est encore le cas, et Olivier l'a expliqué, et c'est encore le cas dans plein de pays du monde, et également parfois dans notre pays, où il y a des mélanges d'animisme et de christianisme. Mais Israël, par rapport aux autres peuples, était libéré quelque part de cet esclavage, de devoir adorer et un Dieu et un autre, et d'avoir peur de celui-ci et de celui-là. Et en fait, quelque part, là aussi, c'est une grande différence par rapport au mouvement écologique, écologiste, qui ne veulent pas croire qu'il y a un créateur, et qui, quelque part, déifie la nature. Et très souvent, vous voyez, la nature avec un grand N majuscule, comme une déesse qu'il faut respecter. ou on l'appelle dame nature aussi, quand on ne sait pas trop comment, s'émerveiller devant les beautés de la nature. C'est aussi une différence de posture d'un chrétien qui veut respecter la nature et d'un mouvement écologiste qui se donne à fond. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour les dénigrer, mais c'est pour dire qu'ils ont bien le sentiment qu'il y a là quelque chose d'important qui est détruit par l'homme en grande partie. Mais nous qui sommes chrétiens, nous disons, mais en fait c'est encore plus grave parce qu'on détruit ce que Dieu a fait. Mais la terre, appartenant à Dieu, comme elle appartient à Dieu, elle est sacrée. Comme un être humain, pour Dieu, est sacré, c'est lui qui nous a créés. Et on ne détruit pas impunément, on ne tue pas impunément un être humain. Le meurtre est un péché. On ne fait pas comme ça un meurtre, parce que l'homme, la vie est sacrée pour Dieu. Et la nature, étant de Dieu, est sacrée. Et nous devons la respecter parce qu'elle est la propriété de Dieu. Et qu'en plus, elle est très belle. Alors voilà la première chose, la création appartient à Dieu. Le point B est le suivant, donc une deuxième petite partie dans la première partie. La terre nous est confiée. Vous ne trouvez pas ce coucher de soleil là? Avant, c'est même passé en pleine journée sur ce rivage de l'Atlantique. C'est absolument merveilleux, je trouve. Je ne dis pas que la photo est particulièrement réussie parce que c'est moi qui l'ai fait, mais rien que de voir ça. Alors peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup la mer, parce qu'ici à Chartres on est loin de tout, et particulièrement de la mer, puisqu'avant on était à côté de la mer nous, et ça nous manque. Mais qu'est-ce que c'est beau la mer, avec cet infini de vision et les reflets du soleil. Je vous invite à vous émerveiller tous les jours de ce que vous voyez, du petit ou du grand. Ça c'est très grand. Quand j'étais petit, je croyais toujours que je voyais l'Amérique au bout. Voilà. Mais cette création-là nous est confiée. Là aussi, quel est le texte sur lequel on peut s'appuyer, ou un des textes sur lequel on peut s'appuyer? C'est le psaume 115. Le ciel, point d'interrogation, mais il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée à l'homme. Le ciel, voilà, cette infinité, on ne peut pas y avoir accès, si ce n'est peut-être sur la Lune, qui est une toute petite, un saut de puce par rapport à l'infini de l'univers. Mais la terre, Dieu l'a donnée à l'homme. Alors pourquoi à l'homme? Et pourquoi à l'homme seulement? Est-ce que nous sommes si spéciaux dans la création de Dieu? Oui. Il y a deux distinctions fondamentales entre les humains et les animaux, et puis le reste de la création. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons. Dans cette version, c'est dit, faisons les humains, hein, les êtres humains, à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer. Et j'ai mis trois petits points, parce que le verset aurait été très long. Voilà. Cette distinction est fondamentale pour déterminer notre relation avec Dieu. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Il y a donc un lien entre le fait d'être image de Dieu et que nous ayons la terre en gestion. Vous savez, on a lu tout à l'heure un texte, enfin c'est plutôt le 11, c'est plutôt Stéphane. Le Christ est l'image de Dieu, le premier-né de toute la création. Le premier-né au sens, pas naissance là, mais celui qui a l'autorité, comme le premier-né d'une famille, qui est le plus grand de la famille. Hein, c'est ça que ça veut dire, c'est un titre. Celui qui a toute la création en maîtrise. Eh bien, Jésus est l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu lui avait donné ce rôle de représenter Dieu sur la terre. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous avons un mandat, un rôle de gérer la terre qui nous est donné par Dieu. Responsabilité très grande. Et nous l'avons pour dominer sur les poissons, etc. Donc nous sommes des représentants de Dieu sur la terre pour exercer une autorité, pour gérer en quelque sorte ce jardin de la création, comme un jardinier est chargé de gérer le jardin de je ne sais quel comte ou marquis qui a un grand jardin autour de son château, et le jardinier est en général très fier, hein, ou l'ingénieur en chef du jardin de Versailles, c'est quelqu'un qui est très fier de ce titre parce qu'il est chargé par l'État de gérer le jardin. Et c'est ce que nous sommes, nous avons tous un mandat de gestion. Mais alors, on se méprend souvent sur la manière de gérer, de dominer, donc de gérer. Souvent, les versions, effectivement, de la Bible parlent de dominer, c'est-à-dire d'exercer une autorité. En fait, je ne suis pas très gêné là-dessus, sauf que certains hommes l'ont traduit comme étant une possibilité de faire ce qu'ils veulent, parce que vu dans l'homme, dans la tête d'un homme, j'espère, non-croyant, quand on domine, on écrase, quand on domine, on abîme. Et malheureusement, j'ai encore entendu récemment un témoignage que certains cadres d'entreprise, dès qu'ils sont cadres, croient qu'ils peuvent dominer et écraser les autres. Et après, ils s'étonnent que l'entreprise ne marche pas. Qu'ils s'en réfèrent à Dieu. Comment Dieu exerce son autorité. Regardez le psaume 145. Le Seigneur est bon envers tous, sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. On parle souvent et beaucoup ont remercié pour ça, parce que beaucoup ressentent la compassion de Dieu envers eux, et c'est très bien. Mais la compassion n'est pas qu'envers les hommes, elle est envers toutes ses œuvres. Dieu s'occupe de sa création avec compassion. Dieu s'occupe de sa création avec bonté. Voilà la manière dont Dieu exerce son autorité. Jésus aussi, quand il était sur la terre, a expliqué, et ça ferait grand bien à tous ceux qui ont une quelconque autorité qu'il leur est donnée sur cette terre, qu'ils soient croyants ou non croyants, ils devraient regarder à la manière dont Jésus exerçait son autorité. Celui qui va être le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et en fait, en nous donnant ce mandat de gestion de la création, Dieu nous demande d'être serviteurs de la création, de prendre soin, d'avoir cette position de dire « je suis là pour protéger, je suis là pour gérer la création, pour la protéger ». Vous savez, Jésus n'a pas lavé les pieds de ses disciples, bien qu'il soit grand, mais Jésus a lavé les pieds de ses disciples parce qu'il était grand. Et quand je vois des chrétiens, et là je me permets de le dire parce que ça m'ulcère, en particulier aux USA, mais j'ai rien contre les chrétiens des USA, mais contre cela, je dis ce n'est pas juste. Malheureusement, c'est cela que la télévision, dans la télévision, fait des reportages, qui disent que la création, c'est pas grave, de toute façon Dieu va la renouveler, on peut en faire ce qu'on veut, et qu'il la détruise par une utilisation outrancière de grosses voitures, qu'il la détruise par des sports, etc. Et que ces chrétiens évangéliques-là qu'on vient filmer, je suis outré qu'on donne ce témoignage-là. Alors que Dieu nous demande de dominer, c'est-à-dire de servir la création. La deuxième distinction, c'est que nous sommes là pour la servir et la garder. Et là, avec un autre verset, Genèse 2, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Littéralement, on peut traduire pour le servir et le garder. Voilà le rôle de ce jardinier dans le jardin d'Éden à l'époque, pour servir et garder la création. Et la terre va répondre aux besoins de l'homme, on a vu. Dieu fait l'homme, fait pousser de l'herbe pour le bétail, au verset 14 du psaume 104, et les plantes pour les besoins de l'homme. Dieu va faire que l'homme puisse être nourri que les animaux puissent être nourris si nous prenons soin de la terre. Et Dieu a bien sûr la haute main sur tout et il se débrouillera comme il veut, mais l'homme doit être respectueux de ce que Dieu a créé pour justement fournir ce qu'il faut à manger. Et dans certains endroits actuellement, à cause de la pollution, je pense à des mégalopoles africaines. Eh bien, je me souviens de ce film de Nicolas Hulot, je ne me souviens plus de son nom, mais qui montrait toutes ces exactions partout sur la planète, où je voyais un enfant boire de l'eau usée, de l'eau des canifs, enfin de l'eau qui avait passé dans les maisons et tout ça, parce qu'il n'y avait plus ça comme eau à boire. C'est scandaleux par rapport à ce que Dieu nous a demandé de faire. Et le problème de cette pollution, c'est qu'elle touche en premier les plus pauvres. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une question d'écologie, mais aussi d'équilibre, d'égalité. Parce que les premiers touchés par les excès de l'homme contre la création sont les plus pauvres. Nous sommes donc là comme gestionnaires. Et c'est pour ça aussi que je crois que combattre pour la conservation de la biodiversité, pour que toutes les espèces qui ont leur utilité puissent subsister sur la terre, je crois que c'est un des rôles du chrétien aussi, gardien de la terre. On peut mener ce combat, on pourrait dire, en co-belligérance. On peut faire la guerre avec des non-chrétiens qui co-belligèrent pour la même chose, qui combattent pour la même chose. En sachant qu'on ne le fait pas sur les mêmes bases, mais qu'on a les mêmes objectifs de protéger la nature. Vous avez vu le nombre de fois où Dieu cite des animaux dans le psaume 104 ? Les cigognes, les oiseaux, le léviathan, dont on ne connaît pas exactement, on suppose parfois que c'est le crocodile, ou des grands animaux marins qui n'existent plus, mais cité dans les psaumes, il est largement aussi cité dans Job. Et vous avez vu Job, les questions que Dieu pose à Job, connais-tu la date où les biches mettent bas ? Connais-tu ceci ? Connais-tu cela ? Dans le détail, Dieu cite les animaux. Il les aime, ces animaux qu'il a créés. Alors prenons aussi, nous, le temps d'admirer la création pour rendre gloire à Dieu. Alors, littéralement, ou en réalité, là j'ai mis un coucher de soleil justement parce que la nuit est plutôt là, les hommes ont-ils toujours servi et gardé la terre comme Dieu l'avait prévu ? Malheureusement, non. Et j'allais dire peut-être malheureusement certains chrétiens, et on y viendra dans la deuxième partie, pensant que tout un jour va se détruire, voilà, on dit c'est pas très grave. Mais mon corps aussi va se détruire, et si j'en prends pas soin aujourd'hui, d'abord je vais peut-être aller mal, et peut-être ma femme va aussi se plaindre, et vice-versa d'ailleurs. C'est pas parce que mon corps va se détruire un jour que j'en prends pas soin. Pourquoi je ne prendrai pas soin de cette terre ? On sait que tout va changer. Mais pour l'instant, Dieu nous a demandé de prendre soin car elle est très belle. Mais je veux dire, et je m'arrêterai là, si l'avenir est plutôt sombre, là le soleil se couche, au même endroit, alors je ne vais pas dire au même moment puisque le soleil ne pouvait pas se coucher et se lever, mais c'était au même endroit que j'ai pris l'autre diapo, juste en me retournant comme ça, et là il y avait un champ dans la brume avec le soleil qui se levait et qui était magnifique, et j'ai loué le Seigneur pour ça. Et dans cette espérance, je dis oui, pour le chrétien, il y a un espoir, et plus qu'un espoir, une espérance. Et c'est ce que je voudrais développer la prochaine fois. Est-ce que tu aurais passé à la dernière diapo, Maëlle, s'il te plaît ? Donc je voudrais vous poser une question en terminant. Nous sommes des jardiniers dans le grand jardin de Dieu. Alors comment dois-je respecter la création aujourd'hui ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est comme prendre soin de mon cœur, même si je sais qu'un jour il va y avoir un grand changement, une transformation, je vais le respecter et je vais de même respecter toute la création qui m'entoure. Et cet exemple, je vais respecter mon corps, ça doit peut-être faire plaisir à Marie-Josée. Pas mon corps, je vais respecter la création comme un jardinier ou une jardinière qui chaque jour se réjouit de prendre soin et d'admirer le jardin de son grand patron, le Créateur. La création appartient à Dieu, mais je m'en occupe. Et en attendant, et c'est ce qu'on verra la prochaine fois, d'être bientôt en face à face avec ce Créateur et dans un jardin mille fois plus beau. La COP21 qui s'ouvre donc aujourd'hui est là parce que les hommes tremblent à cause de l'évolution de la création et des conséquences qu'ils y voient. Je sais que certains sont ce qu'on appelle climato-sceptiques et se posent la question, est-ce qu'il y avait effectivement des conséquences en ce que l'homme fait et des causes, enfin, est-ce que l'homme est effectivement la cause de ces conséquences? Beaucoup d'experts et beaucoup d'experts chrétiens, d'ailleurs si ça vous intéresse, il y a une conférence toute la journée de samedi prochain avec des experts évangéliques de très haut niveau à Paris. Pour ceux que ça intéresserait, je peux vous donner tout à fait les coordonnées. Eh bien, on est sûr à 97-98%, et théologiquement parlant, tout se tient pour dire c'est l'activité humaine qui en grande partie cause les troubles actuellement de l'écologie. Et les hommes s'alarmant de ça ont mis en place des conférences à Rio de Janeiro, ensuite à Copenhague et maintenant à Paris. Et là, les gens à Paris sont inquiets. Ils sont vraiment inquiets parce qu'ils voient les conséquences. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de prier pour tous ces experts qui vont être réunis des milliers et qui ont travaillé. Là, c'est que la fin du travail, mais ils ont travaillé depuis des mois là-dessus. Et on se pose la question s'il va y avoir un accord, au moins un accord minimum pour protéger la création. Et je crois qu'il est de notre responsabilité, c'est pour ça que je vais demander à plusieurs d'entre vous de prier maintenant. De prier pour que et nous sommes appelés à prier pour les autorités. Donc c'est les plus hautes autorités auxquelles nous sommes appelés à prier, mais aussi les experts et tous ceux à qui on a donné un mandat de réfléchir là-dessus. Mais imaginez qu'à Paris, à 80 km d'ici, 150 chefs d'État seront présents. Nous avons une responsabilité de prier. Je vous proposerai de le faire maintenant et aussi de le faire toute la semaine. Pour deux raisons. La première, évidemment, c'est parce qu'il en va de notre création. Et Dieu a la haute main sur tout. Et même si les hommes la détruisent, un jour, et nous le verrons la prochaine fois, Dieu s'occupera de tout ça. Mais nous sommes pour l'instant chargés de gérer cette création. Et de prier Dieu pour que ceux qui en ont un peu le souci prennent les bonnes décisions. Deuxième raison, nous devons prier pour les autorités à cause des événements et de tout le contexte hyper dangereux que cela représente. Le CNEF, donc, qui rassemble les églises évangéliques, a écrit cette semaine au ministère de l'Intérieur, au ministre de l'Intérieur, et nous lui avons dit d'abord tout notre soutien dans la prière de la part de toutes les églises évangéliques. Il y a là un grave enjeu qui est en plus augmenté par cette grande conférence. Et c'est donc deux semaines-là où nous devons, chrétiens, prier pour les autorités. Et nous avons aussi remercié le ministre de la manière dont il le gère, la police, la gendarmerie et tous les corps, les pompiers, etc. Tout n'est peut-être pas parfait, mais Dieu a donné autorité à ce gouvernement et nous devons prier pour ce gouvernement. Donc j'aimerais que, et par exemple, ceux qui ont, je vous posais pas la question pour vous avoir, mais ceux qui ont levé la main en disant qu'ils s'intéressaient à la COP21. Voilà, vous pouvez la relever. Il y en avait plus, voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez prier courtement, chacun, pour les autorités, pour qu'elles prennent les bonnes décisions concernant la création. Et aussi prier pour les autorités qui en chargent la sécurité de notre pays. Je crois que c'est un devoir pour nous chrétiens et pour les églises de le faire. Prenons un temps dans la prière. Merci de prier courtement, mais de faire lever ces intercessions auprès de notre Seigneur, qui est le grand Créateur. Merci. Ne vous attendez pas, allez-y.
La terre est notre maison, c'est là que tu nous as placés pour y vivre. Nous avons demandé pardon, parce que nous l'avons accusé. Et puis, il y a un jour que tu jugeras ce qui a venu la terre. Seigneur, en ce moment, se passe à Paris une grande conférence. Ma prière, Seigneur, c'est qu'il y ait vraiment une crise de conscience du danger dans lequel nous sommes, concernant l'état de notre planète, qui est en grand danger sur bien de nous. Seigneur, vraiment, touche le cœur de toutes les autorités de notre monde, et particulièrement ceux qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas fait grand-chose pour protéger leur pays de la pollution de notre problème. Seigneur, vraiment, que ton esprit intervienne à Paris auprès de ces 150 avocats qui sont là. Protège aussi tous ces amis, ces autorités. Merci pour toute la sécurité que tu as mis en œuvre ici. Seigneur, vraiment, le temps est court, Seigneur, tu reviens bientôt. Mais nous te demandons vraiment de permettre une prise de conscience à tout niveau, même pour chacun d'entre nous, Seigneur. Pour les déchets que nous jetons parfois sans réfléchir, pour tout ce qui pour le manque d'attention, Seigneur, vraiment, sous ma prière, c'est une prise de conscience et de la grâce pour laquelle nous sommes, Seigneur, dans ce moment, la situation de notre vie. Seigneur, que de bonnes décisions soient prises, pas des paroles, mais des actes. Au nom de Dieu.
Seigneur Jésus, nous voulons te louer pour cette création que tu as faite parfaite. Nous voulons te louer parce que aussi tu nous as donné la responsabilité de la gérer. Oui, mais nous l'avons souvent mal compris. Oui, nous l'avons souvent compris qu'un jour tout sera détruit. Et nous avons oublié que, avant tout, tu l'as voulu parfaite. Et tu as voulu que nous la gérions avec justice, avec respect, en sachant que c'est ton œuvre que nous gérons. J'aimerais vraiment te demander que tu agisses dans le cœur des chrétiens pour que des positions théologiques qui ne sont pas justes puissent évoluer, changer. Parce que tu nous as appelés à être le sel de la terre, tu nous as appelés aussi à être dans ce domaine, le sel de la terre, et de pouvoir témoigner de la juste vérité à ce sujet, de pouvoir respecter, servir cette terre en sachant que c'est ton œuvre, ce n'est pas une déesse, mais nous avons des responsabilités. Que cela soit aussi l'occasion de parler de toi. Parler de toi qui en es le créateur, l'auteur, l'artiste. Seigneur, merci de pouvoir à cette occasion, dans ces temps, cette semaine, aussi que des chrétiens puissent parler de du vrai sens de cette création, et que nous puissions vraiment faire avancer les choses, que nous puissions être ce sel dans tout cela, que nous puissions soutenir et prier tous ceux qui se trouvent. Amen.
Amen.
Seigneur, je te remercie parce que tu te révèles dans ta création. Je te remercie de, pendant toutes ces beautés que tu peux nous donner de contempler. Je te prie, mon Dieu, d'éclairer tous ces dirigeants qui vont se retrouver pour parler de la terre, Seigneur. Tu vois que beaucoup pensent que nous sommes au pied du mur et qu'il est temps de prendre une décision, Seigneur. Je te prie vraiment pour toutes ces discussions qu'il pourrait y avoir et qu'un accord puisse être trouvé. Également pour la sécurité de ces gens et que rien ne vienne interférer dans toutes ces discussions et ces débats.
Amen. Il y a eu trois hommes. Je proposerai à Vanessa, Michèle et Micheline de terminer par la prière.
Parce qu'il y a vraiment un important, Seigneur. que ces décisions puissent vraiment mener à des actions qui soient efficaces, pour que ça puisse permettre à des certains phénomènes qui ont déjà commencé à être enrayés, Seigneur, qu'ils puissent avoir moins d'inégalité. Je te remercie.
Amen. Je prie pour Micheline alors. On veut te dire, Seigneur, à la fin de ce moment ensemble, que nous reconnaissons que tu es le grand Créateur et qu'à toi revient toute la gloire, Seigneur. Amen.